Bonjour Tiffany et très bon après-midi à vous.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'histoire de l'art n'est pas très généreuse quand il s'agit de faire de la place aux femmes. Il y a eu dans l'histoire bon nombre de créatrices empêchées et il faudra longtemps avant que ce déséquilibre homme-femme puisse se résorber car nous sommes tributaires de ce passé discriminateur. On peut malgré tout revoir à nouveaux frais et avec une perspective nouvelle comment des femmes artistes ont été minorées, bien souvent par leurs proches même. Et c'est ce travail qu'a initié Hélène Morel-Indard et qui a donné lieu à un ouvrage paru cette année chez Classique Garnier intitulé « Femmes artistes et écrivaines dans l'ombre des grands hommes ». Nous avons bâti cette semaine de la Compagnie des œuvres à partir de ce livre collectif. Hier, nous avons donc commencé en évoquant le cas de Catherine Pozzi, poétesse minorée par son amant Paul Valéry ainsi que par ses Thury Ferrer. Demain, nous nous intéresserons au cas de Suzanne Duchamp, la jeune et talentueuse sœur de Marcel Duchamp. Enfin, jeudi, nous parlerons de Marie Shelley, dont la postérité s'est longtemps contentée de ne retenir que le nom de son mari, Percy Shelley. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer Louise Collet, rabaissée par Flaubert et quelques flaubertistes, nous sommes avec Joëlle Robert, présidente de l'association des Amis de Flaubert et Maupassant et rédactrice de la notice sur Louise Collet dans le dictionnaire Flaubert chez Honoré Champion. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des œuvres.
Sur la frise où le jour palpite, semble hennir les coursiers blancs. Un char vainqueur se précipite, suivi de chars étincelants. Des vierges aux longues tuniques portent les amphores de miel et les pains que leurs doigts pudiques viennent de pétrir pour l'autel. On dirait leurs robes mouvantes, leurs cheveux frémissent à l'air. Les formes sont-elles vivantes? Est-ce le marbre? Est-ce la chair? C'est plus que la vie éphémère, c'est le souffle de Phidias qui donne un cœur au dieu d'Athènes et que vient d'animer Pallas.
Bonjour Joëlle Robert.
Bonjour.
Alors ce poème, L'Acropole d'Athènes, lu ici par Berthe Chernel en juin 1967, c'est un poème de Louise Collet, vous l'aviez, j'imagine, reconnu. Mais ce n'est pas ce genre de poème qu'on apprend à l'école. Et c'est bien un exemple, un des premiers exemples, du fait que Louise Collet est aujourd'hui une écrivaine un peu oubliée.
Oui, c'est un poème avec lequel elle a obtenu un prix de l'Académie, parce que Louise Collet a eu quand même, elle, beaucoup de mal à vivre de sa poésie, même au XIXe siècle. Donc elle a fait une poésie, une très belle poésie pour certains poèmes et une poésie alimentaire, il faut bien dire, pour beaucoup d'autres aussi.
C'est très intéressant. Donc il y a justement une problématique qui est directement liée au féminisme, qui est que ben, tout simplement pour pouvoir se nourrir, il a fallu que Louise Collet pervertisse un peu son art.
Oui, ah oui, absolument, parce que Louise Collet est une femme indépendante. C'est une femme autonome au XIXe siècle. On le voit déjà parce que elle écrit sous son nom, alors que d'autres femmes utilisent des pseudonymes, par exemple George Sand. Louise Collet, c'est son nom de femme mariée. Elle est mariée à Hippolyte Collet, mais elle a du courage hein, d'écrire sous son nom et de de l'audace, on peut dire quand même, parce qu'elle est du coup la cible de critiques des littérateurs, on peut la traiter de bas bleu, enfin, et on ne s'en est pas privé.
Alors c'est quand même quelqu'un qui a un certain succès au 19e, ce prix de l'Académie française, elle en a eu d'ailleurs plusieurs des prix de l'Académie française.
Oui, elle en a eu 4. Hein, donc c'est beaucoup. Elle a eu dans les années, elle monte à Paris en 1835. Elle épouse Hippolyte et elle vient à Paris. Elle habitait avant Aix et Servanne, le Midi.
Elle est née en 1810.
Voilà, elle est née en 1810 et en 1835, elle épouse Hippolyte. Elle a déjà beaucoup écrit dans le Midi. Elle a écrit des poésies où elle a eu beaucoup de succès parce qu'elle était dans le salon de Julie Candeille à Aix.
Alors pourquoi épouse-t-elle ce fameux Hippolyte qui est un musicien? Est-ce que c'est parce qu'elle a envie de s'échapper finalement de son milieu, de sa famille?
Oui, certainement. Alors elle est séduite quand même un petit peu par ce musicien qui a de l'ambition et qui veut lui aussi monter à Paris pour conquérir la gloire. Ils utilisent ce mot dans leurs lettres. Ouais. Donc l'un et l'autre ont la même ambition, elle sur le plan poétique, lui sur le plan de la musique.
Mais est-ce que c'est un mariage qui fonctionne pour autant, ou est-ce que il y a quand même l'idée de trouver un véhicule qui l'emmène vers ailleurs?
Oui, certainement. Elle se marie avec Hippolyte pour échapper à sa famille et pour s'émanciper. Ouais. Hein, certainement, oui.
Alors Joël, Robert, ces premières années parisiennes, comment se passent-elles? Est-ce qu'il y a des difficultés ou est-ce qu'au contraire, finalement, elle arrive rapidement?
Alors les premières années sont quand même difficiles, hein, puisque Hippolyte pensait avoir un poste de professeur au conservatoire, mais il n'est que répétiteur, donc il a peu de moyens. Et elle, pour être reconnue comme femme écrivain, il faut qu'elle publie un livre, un recueil. Donc elle va essayer d'abord de publier Les Fleurs du Midi. Mmh. Et elle y arrive en 1836, mais pour ça, elle doit beaucoup faire contacter des éditeurs. Alors, donc elle se répand beaucoup partout et en même temps elle veut essayer de placer dans les journaux des poésies puisque c'est la grande époque des journaux. Donc elle a du succès. C'est vrai, tout à fait, elle a du succès.
Elle rencontre Victor Cousin aussi.
Voilà, alors elle rencontre Victor Cousin qui est quand même ministre de l'instruction publique et qui est séduit par elle. Louise Collet est très belle, et ça tout le monde le reconnaît. Donc elle attire énormément. Et c'est vrai que Victor Cousin est séduit par elle. Donc le début se passe bien parce qu'elle a une pension royale. Hein. Louis-Philippe achète son livre. Au début, elle s'en sort plutôt bien.
Alors elle a un enfant aussi. Mais cet enfant, on ne sait pas très bien de qui il est.
Oui,
et personne finalement ne veut le reconnaître.
C'est ça, parce que donc elle s'est mariée en 1835 et elle a une fille en 1840, donc 5 ans de vie commune avec Hippolyte où elle n'a pas eu d'enfant. Et elle a cette liaison avec Victor Cousin qui commence en 1839 et donc Alphonse Carr qui est le journal Les Guêpes. Un journal extrêmement caustique et satirique, la blesse beaucoup par un article en disant que elle a eu une piqûre de Cousin.
Ouais.
Et donc elle
Donc elle réagit assez mal, hein, puisque elle a envie d'assassiner.
Elle réagit très mal. Elle voudrait que Hippolyte le provoque en duel, mais Hippolyte n'a pas du tout ce désir-là. Et donc elle se venge elle-même. Elle prend un couteau de cuisine et il habitait très près de chez elle, rue de Bréda. Le trouve sur le pas de sa porte et elle lui dit « j'ai à vous parler ». Il se retourne, elle lui donne un coup de couteau, mais il porte un genre de corset qui empêche qu'il soit blessé.
La nuit s'écoula pour moi dans l'insomnie, dans une morne stupeur. Stupeur apparente. Le sang de mon aïeul, le conventionnel, le sang de sa fille, ma fière et sainte mère, frémissait en moi. J'entendais aussi l'enfant qui tressaillait dans mon sein me crier « Il faut que cet homme meure ». J'attendis le jour, je comptais les heures, quand je fus seule, je me vêtis. Je pris pour arme un couteau de cuisine. Me procurer une arme plus élégante m'aurait paru théâtrale. Je ne songeais qu'à agir avec simplicité comme il convient dans une grande douleur. La maison que j'habitais était voisine de celle de cet homme. Je m'y rendis résolue. Je le trouvai sur sa porte, en manche de chemise. Je ne lui dis que ces mots, j'ai à vous parler. Il m'engagea à entrer chez lui, et comme il se penchait vers la loge de son portier, je le frappai dans les reins. Quelques gouttes de sang jaillirent, le couteau avait glissé. Inquiet de ses infamies, il portait, m'a-t-on dit, une sorte de cuirasse. Il s'était détourné vivement et me désarma. Après avoir échoué, je ne proférai pas une parole. Il prétend dans son récit d'aujourd'hui qu'il envoya chercher un fiacre et qu'il me donna la main pour y monter. Invention stupide. Est-ce que j'aurais touché la main de cet homme? Il dit encore, elle était assez belle, mais d'une beauté trop massive. Atroce quolibet digne de cette âme flétrie. J'étais massive. Comme une mère prête à mettre son enfant au monde.
Alors hier, on parlait de Catherine Pozzi, la maîtresse de Paul Valéry, dont on a beaucoup fait courir le bruit à son sujet, qu'elle était, pourquoi pas, un peu hystérique. Et finalement, cet événement a peut-être pu accréditer aussi, ou plutôt même discréditer, la figure de Louise Collet. Qu'en pensez-vous, Joëlle Robert?
En tout cas, elle a fait preuve de... elle s'enflamme, hein, elle est colérique, elle réagit. Et Victor Cousin a plutôt apprécié. Il lui a dit que, avec une citation latine, qu'elle était totalement femme, mais que là, elle avait agi en homme.
Mais ça se retourne contre elle, ce genre de stéréotype?
Oui, aussi, oui, bien sûr, oui. Mmh. Oui, oui.
Alors, à quel moment fait-elle la rencontre de Flaubert?
Alors là, donc on était en 1840, au moment de la naissance de sa fille. Elle rencontre Flaubert en 1846. Donc là, c'est une année noire pour Flaubert, puisqu'il vient de perdre son père et sa sœur, successivement. Et il a commandé les bustes de son père et de sa sœur au sculpteur James Pradier, à Paris. Et il va donc, en juillet, voir l'avancement des bustes. Oui. Et quand il arrive dans l'atelier de Phidias, comme il l'appelle, hein, James Pradier, Louise Collet pose pour le sculpteur.
Et là, c'est le coup de foudre?
C'est le coup de foudre. Le coup de foudre des deux, d'ailleurs. Hein. Et il lui dit, quand je t'ai vu au milieu des plâtres antiques, il a l'impression qu'il a une beauté grecque devant les yeux.
Donc lui, il a 25 ans.
Oui.
Elle en a 10 ou 11 de plus.
Oui, 11 de plus.
Donc il y a d'ores et déjà, dès le départ, une sorte de déséquilibre. Parce qu'elle est célèbre quand même, lui ne l'est pas du tout.
C'est ça. Alors elle est vraiment très célèbre à ce moment-là. Hein. Elle a déjà 2 prix de l'Académie, elle a un grand nombre de publications, elle a des poésies, des nouvelles, des romans, enfin elle a vraiment une œuvre déjà. Donc elle est reçue dans les salons et elle tient salon aussi. Et donc elle a par exemple le salon de Madame Récamier.
Oui.
Elle est dans le cercle des intimes de Madame Récamier. Donc elle est vraiment courtisée par beaucoup de monde à Paris.
Alors que Flaubert est un inconnu.
Flaubert est un inconnu complet. Il n'a absolument rien publié. Il a énormément écrit. Hein. Maintenant, on publie ses œuvres, celles qu'il n'a jamais voulu publier.
Donc il sent déjà qu'il est un grand écrivain. Et à ce titre-là, il va d'ailleurs se permettre de donner des leçons, on va le voir tout au long de cette émission, à Louise Collet, c'est ça, Joël Robert ?
Oui, il est très sûr de, comment dire, il a déjà achevé, on peut dire, sa formation quand en 1846. Il a lu énormément Flaubert, il a eu toute sa période romantique et qui s'est terminée avec l'écriture de Novembre. Et donc, il est passé ensuite à autre chose après avoir écrit aussi sa Tentation de Saint-Antoine, la première.
Donc cette rencontre, c'est une rencontre de passion, en tout cas 3 jours de passion.
Oui, oui. Alors pour la rencontre, donc ce sont 3 jours de passion. Donc ils se retrouvent le soir, ils font des promenades au bois de Boulogne en calèche. C'est la fin juillet, donc on fête l'anniversaire de l'avènement de Louis-Philippe. Donc c'est l'anniversaire des Trois Glorieuses, et donc on tire des feux d'artifice. Et eux, ces feux d'artifice illuminent leur amour sur le bois de Boulogne.
Ouais. C'est le premier amour réellement de Flaubert, même s'il a connu aussi durant son adolescence le feu de la passion. Ça se passe toujours un peu dans sa tête aussi à Flaubert, mais il n'y aura pas tellement après elle d'autres amours. Donc on peut dire que c'est quand même la grande histoire de Flaubert.
Oui. Alors il y a bien sûr quand Flaubert a 15 ans l'épisode avec Madame Schlesinger, hein, qui va être un amour qui va durer, un amour idyllique aussi, mais un amour qui la tue pendant longtemps, hein, voilà. Mais ensuite il a connu pendant le voyage après son bac, le voyage dans les Pyrénées, il a rencontré d'autres femmes, hein, Eulalie Foucault.
Toujours est-il qu'il est assez jaloux.
J'ai relu tout seul et à loisir ta dernière longue lettre, le récit de la promenade au clair de lune. J'aimais mieux la première, de toute façon, et comme forme et comme fond. N'est-ce pas qu'il s'est passé en toi quelque chose de trouble ? Tu as eu beau dédaigner cette bouffée, elle ne t'en a pas moins tourné le cœur, pendant quelque temps. Tu me comprendrais mal si tu croyais, pauvre chère Louise, que je t'adresse quelques reproches. On peut être maître de ce que l'on fait, mais jamais de ce que l'on sent. Je trouve seulement que tu as eu tort d'aller te promener une seconde fois avec lui. Tu l'as fait naïvement, je veux bien, mais à sa place, je t'en garderai rancune. Il peut te prendre pour une coquette. Il est dans les idées reçues qu'on ne va pas se promener avec un homme au clair de lune pour admirer la lune. Et le sieur de Musset est diablement dans les idées reçues. Sa vanité est de sang bourgeois. Je ne crois pas, comme toi, que ce qu'il a senti le plus soit les œuvres d'art. Ce qu'il a senti le plus, ce sont ses propres passions. Musset est plus poète qu'artiste, et maintenant beaucoup plus homme que poète, et un pauvre homme.
Nuance avec parano, de pas grand chose, mais pourquoi s'entremêler entre lui et moi, c'est plutôt déplacé et frustrant, car jalousie, ton nom est bien trop joli.
Cette lecture par Éric Herson, Macarel d'une lettre de juillet 1852, c'est 6 ans après la rencontre Flaubert-Louise Collet. Dans cette lettre, on se rend compte que Flaubert ne dissimule pas sa jalousie, un petit côté aussi paternaliste sans doute dans la manière de s'adresser à elle. Qu'est-ce que ça dit de leur relation selon vous, Joël Robert ?
Alors d'abord, il y a eu deux périodes dans leur relation.
Hein. Avec une interruption.
Une première qui se situe entre 46 et 47, et ensuite ils rompent. Après cette rupture, Flaubert va faire son voyage en Orient, et pendant tout le voyage en Orient, il ne va jamais écrire à Louise Collet, pas une lettre. Quand il va partir, il ne va pas venir lui dire au revoir. Donc là, vraiment, la rupture a été importante. Hein.
Mais elle revient quand même le voir à son retour.
Oui. Alors, à son retour, elle apprend qu'il est rentrée. Et en 1851, en juin 1851, elle va jusqu'à Croissy. Or, Croissy est un lieu interdit pour elle. Jamais Flaubert n'a voulu la recevoir. Et d'ailleurs, il ne va pas la recevoir. Elle va sonner à la porte et il va se déplacer en lui disant « Pourquoi êtes-vous venu ?» Et il va lui dire « Allez à votre hôtel, je viendrai vous retrouver le soir. » Mais il ne l'accueille pas, il ne lui présente pas sa mère. Et donc, la porte de Croissy lui est fermée. Donc, il va la retrouver. Et là, la correspondance va reprendre de 51 à 54.
Alors, c'est un peu un prétexte quand même, cette mère, pour ne pas ouvrir la porte. On sent qu'il la met toujours à distance.
Oui, parce qu'il n'a pas du tout la même vision de l'amour que Louise. Pour Louise, l'amour est absolument totale, elle voudrait sa présence continuelle, elle voudrait le voir très souvent, elle voudrait écrire avec lui, enfin elle voudrait qu'il lui dise qu'il l'aimera toujours. Et pour Flaubert, c'est pas du tout sa conception de l'amour. Donc Flaubert, le travail est sacré pour Flaubert, et c'est ça qui est premier, l'art est premier, et il lui dit d'ailleurs, mais il lui dit dès le début, l'amour pour lui ne passe en second. Ça n'est qu'un assaisonnement, comme il dit, de l'existence. Et ce n'est pas un absolu, comme Louise.
Alors cette correspondance de Flaubert avec Louise Collet, elle est assez abondante. Il y a un peu moins de 300 lettres, je crois. C'est une correspondance qui va un peu dans un seul sens, en tout cas pour ce qui nous est parvenu, parce que il ne reste plus, je crois, qu'une seule lettre de Louise Collet, c'est ça ?
Oui. C'est une correspondance, on n'entend que la voix de Flaubert, et la voix de Louise se trouve à l'intérieur, en creux, dans le texte de Flaubert. Mais on l'entend quand même, et quand même maintenant, on a aussi les mémorandas de Louise Collet, que Joël Garde a publié il y a 2 ans.
Et qu'on peut lire sur Gallica, par exemple. Aussi, on peut lire toute l'œuvre de Louise Collet sur Gallica.
Oui. Et Joël Garde a publié les mémentos dont on n'avait que des extraits qui étaient donnés en annexe par Jean Bruno dans la correspondance. Ouais. Mais elle a publié l'intégralité de ce qui reste. Et donc là, ça donne la voix de Louise Collet reprend beaucoup d'intensité quand même.
Et à quoi elle ressemble, cette voix ?
Eh bien, on se rend compte que quand on lit que Flaubert, on entend surtout Flaubert. Et quand on lit Louise Collet, on voit qu'elle existe, qu'elle dépasse la relation qu'elle a avec Flaubert. Elle a une existence propre, elle recherche beaucoup, elle a une vie extrêmement difficile parce qu'elle est très autonome, très indépendante. Elle ne veut pas se remarier une fois qu'elle s'est séparée d'Hippolyte et qu'il est mort. Victor Cousin veut l'épouser, mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas dépendre d'un homme, donc c'est très difficile pour elle.
Alors il y a une lettre quand même, je crois qu'on a retrouvée. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance. Elle s'appelle Souvenir et elle retrace un rendez-vous des deux amants à Mantes. Est-ce que vous la connaissez ?
Alors, je pense que ce n'est pas une lettre dont vous parlez, c'est plutôt un poème. Le poème Souvenir, c'est...
C'est Jacques Le Carme qui dit avoir retrouvé ce texte.
Oui, alors il reste une lettre banal de Louise Collet, mais il reste ce poème. D'accord. Et ce poème est le récit de leur rencontre à Mantes en 1846, c'est-à-dire un mois à peu près après l'avoir rencontré chez James Pradier. Et là, c'est un poème intéressant parce que au XIXe siècle, on ne parle pas de la jouissance sexuelle féminine, et justement, une femme n'a pas tellement le droit à l'écriture érotique. Or, justement, Louise va célébrer ça. Elle célèbre la jouissance, avec une crudité tranquille et une jubilation, on peut dire, charnelle.
C'est là où elle parle du buffle indompté des déserts d'Amérique en parlant de Flaubert. C'est assez drôle parce que c'est pas comme ça qu'on se le représente toujours.
Oui, absolument. Flaubert dit d'ailleurs que ça l'a fait rire. Cette phrase, mais elle ce sont des vers faciles, des vers fluides qui qui alterne des alexandrins, des octosyllabes. Et en 12 épisodes, elle va retracer leurs deux jours à Mantes.
Mais alors, qui a détruit ces lettres et comment se fait-il qu'on n'ait plus les lettres de Louise Collet?
Alors, on pense maintenant que c'est Flaubert lui-même qui a détruit ces lettres parce que il reste une chronique de Maupassant où Maupassant raconte que Flaubert lui a demandé de venir un jour de 1879, une nuit, pendant laquelle il a trié sa correspondance et Maupassant l'a vu mettre des paquets de lettres dans le feu. Donc en fait, ce qu'il détruit, ce sont les lettres reçues. Et on n'a pas les lettres de Louise Collet, mais on a les lettres d'aucune femme. On n'a pas plus les lettres de Léonie Brenne, les lettres d'Edma Roger Desgenettes, voilà.
Mais on a les lettres des hommes.
On a les lettres... les lettres des hommes, pas toutes. Pas toutes. On a les lettres de Flaubert, parce que là, ce sont les correspondants qui les ont gardées.
Mais lui, il brûlait énormément, alors. Il détruisait.
Il a détruit en 1879. Et il a été inquiet en 1877, quand, après la mort de Mérimée, on a fait paraître les lettres à une inconnue. Et donc, Flaubert s'est dit, si on me fait paraître des lettres après ma mort... ce sera terrible.
Et toi, bonne muse, cher collègue en tout, collègue vient de colligérer, lié ensemble, as-tu bien travaillé cette semaine? Je suis curieux de voir ce second récit. Je n'ai qu'à te faire deux recommandations. Premièrement, observe de suivre les métaphores. Et deuxièmement, pas de détails en dehors du sujet. La ligne droite. Parbleu, nous ferons bien des arabesques quand nous voudrons, et mieux que personne. Il faut montrer aux classiques qu'on est plus classique qu'eux et faire pâlir les romantiques de rage en dépassant leurs intentions. Je crois la chose faisable, car c'est tout un. Quand un verre est bon, il perd son école. Un bon verre de Boileau est un bon verre d'Hugo. La perfection a partout le même caractère, qui est la précision, la justesse. Si le livre que j'écris avec tant de mal arrive à bien, j'aurai établi par le fait seul de son exécution ces deux vérités qui sont pour moi des axiomes. À savoir, d'abord, que la poésie est purement subjective, qu'il n'y a pas en littérature de beaux sujets d'art, et qu'Yvetot, donc, vaut Constantinople. Et qu'en conséquence, l'on peut écrire n'importe quoi, aussi bien que quoi que ce soit. L'artiste doit tout élever. Il est comme une pompe. Il a en lui un grand tuyau qui descend aux entrailles des choses, dans les couches profondes. Il aspire et fait jaillir au soleil, en gerbe géante, ce qui était plat sous terre et ce qu'on ne voyait pas. Aurais-je une lettre de toi, demain à mon réveil? Adieu, chère Colombe. Mille bécotements sur la bouche. À toi, ton Gustave.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Cette lecture par Éric Herson-Macarel, c'est une lettre à une femme poétesse qu'écrit Flaubert. Et ça, ça se sent quand même. C'est très important, le rapport intellectuel et puis le rapport quand même d'écrivain à écrivain.
Oui, oui, oui. Comme ils sont très différents, ça va alimenter un discours sur l'art très important de Flaubert. Alors, pendant toute cette période, Flaubert écrit Madame Bovary et Louise Collet écrit de nombreuses poésies. Donc, ces lettres sont extrêmement littéraires. On suit à la fois la jeunesse de Madame Bovary parce que si Louise Collet n'a pas le droit de venir à Croisset en chair et en os, elle a le droit de rentrer dans l'atelier quand même par la correspondance.
Donc s'il y a amour, s'il y a vrai amour, c'est parce que Emma Bovary finalement est partagée par l'un comme par l'autre. Enfin, Flaubert ouvre son atelier à sa maîtresse, enfin à son amante.
Oui, oui, oui. Il ne lui fait pas lire. Il ne lui fait pas lire avant ce qu'il écrit. Il voudrait lui amener tout, une partie entière ou tout fait, mais il la tient au courant de toutes de tous ses préceptes, de ce qu'il découvre dans l'écriture.
Et c'est là où il y a un déséquilibre dans la relation, c'est qu'elle fait lire, lui-même commente de manière assez dure, parfois on va l'entendre, et lui parle de ce qu'il écrit, mais ne fait jamais lire.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Il fait lire à Louis Bouilhet.
Ses amis donc, hommes.
Hommes, oui. La création se passe entre hommes, hein, comme Louis Bouilhet vient tous les dimanches à Croisset et Flaubert lui lit tout ce qu'il a écrit pendant la semaine et ils corrigent ensemble. Hein. Mmh. Et ils vont corriger aussi en même temps les poésies de Louise, à
donc,
deux.
Malgré la différence d'âge, c'est Flaubert qui s'institue comme le maître dans la relation.
Oui, oui, oui. Flaubert, c'est un génie, hein, donc il a vraiment des intuitions. Et je pense que Louise Collet a pressenti qu'il allait vraiment être un grand écrivain. Mmh. Elle l'a pressenti. Et donc, elle, en plus, comme elle l'aime passionnellement, elle l'écoute, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va corriger. Ou écrire comme il voudrait.
Mais elle doit supporter aussi un certain nombre de vexations quant à sa prose. Écoutez.
J'ai lu, relu, et je les ai là sous les yeux, tes deux dernières pièces de vers sur lesquelles il y a beaucoup à dire. Les bons vers abondent, mais encore une fois, je ne t'en sais aucun gré. Les bons vers ne font pas les bonnes pièces. Ce qui fait l'excellence d'une œuvre, c'est sa conception, son intensité. Et en vers surtout, qui est l'instrument précis par excellence, il faut que la pensée soit tassée sur elle-même. Or, je trouve la pièce, à ma fille, lâche de sentiments. Et c'est là ce que toutes les mères eussent dit, à peu près de la même manière, poésie à part, bien entendu. Commençons. La première strophe, sauf le premier vers, me semble très bonne, surtout le dernier vers, qui est excellent. Mais remarque, que de répétitions dans les cinq strophes qui suivent. C'est toujours « sur » ou « sous ». La pensée est divisée en petites phrases pareilles, et c'est sans cesse la même tournure de style. Quant à la strophe « de ton joli », je la trouve atroce de toute façon.
De ton joli corps sous la couverture, plus souple apparaît le contour charmant. Tel, au Parthénon, quelque frise pure, nous montre une vierge aux longs vêtements.
De ton joli corps sous ta couverture, est obscène et hors du sentiment de la pièce. Couverture est ignoble de réalité, outre que le mot est laid en soi. Plus souple apparaît le contour charmant. Et puis, qu'est-ce que vient faire là le Parthénon, l'Antiquité et la frise pure si près de la couverture ?
Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, après tout, associer le Parthénon à une couverture ? C'est ce qu'on serait tenté de vous demander, Joël Robert, qu'en pensez-vous ?
Oui, j'avoue que je ne sais pas trop la manière dont il critique les vers de Louise. C'est compliqué, parfois on ne voit pas très très bien exactement ce qu'il veut dire. Ce qu'il a...
C'est un peu un argument d'autorité.
Oui, en fait,
on ne doit pas, on ne fait pas.
Non, il est contre le sentimentalisme dans les vers, contre la sensiblerie, toute cette prose romantique où on met son cœur.
Qu'on associe au féminin, justement.
Voilà, c'est un déversoir pour lui. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il voit l'art.
Ouais. Hein.
Et donc, dans toutes ces lettres... il a un vocabulaire assez dur pour Louise Collet, hein, parce qu'il utilise, tout un vocabulaire métaphorique et en empruntant ses images à l'anatomie et à la physiologie, surtout. Hein. Et donc, c'est en fait un vrai discours sur le corps qu'il développe, et par là, il développe ses théories esthétiques.
Alors, lesquelles ?
Alors, il a, comme son époque, un modèle dualiste, hein, c'est-à-dire qu'il divise les deux pôles, sont le masculin et le féminin. Donc, le masculin est positif et cela renvoie un peu aux catégories réalistes et romantiques, en gros, si on peut dire. Donc le positif, ce serait l'observation, la représentation, l'impersonnalité. Et le négatif, le féminin, donc qui serait le sentimentalisme, la complaisance, l'effusion ou la subjectivité. Et donc le bon style est un style mâle. Et par exemple, il dit « la vérité demande des mâles plus velus que monsieur de Lamartine ».
Donc, qui lui rejetait du côté du féminin alors ?
Oui, oui, voilà. Alors donc ce sera ça. L'intérêt, c'est que ces critères féminins, il va les appliquer d'abord à des hommes, à Musset, à Lamartine, et à lui-même aussi dans sa première période romantique, quand il écrivait Novembre, Les Mémoires d'un fou. Où il ressentait des débordements de sentiments, l'inondation des sentiments, comme il disait. Voilà. Et donc, le style mâle est un style qui est serré. Alors, sa définition, par exemple, je vais vous en donner un exemple. Les chevaux et les styles de race ont du sang plein les veines et on le voit battre sous la peau et les mots depuis l'oreille jusqu'au sabot. Donc là, il file encore une métaphore, mais cette fois-ci, c'est plus l'eau comme l'eau claire qui coule, mais c'est l'image du sang, de la surabondance. Une bonne phrase doit être bourrée de l'idée à en craquer. Et en plus, elle doit battre, c'est-à-dire qu'on entend la scansion de la phrase comme le battement du cœur anatomique. Et il définit son idéal par le relief, l'élan, le rythme. C'est une prose qui doit être rythmée comme le vers. Ça, c'est ça, un peu son idéal. Et le mauvais style dont il parle beaucoup, qui est lui femelle, dans Georges Sand, on sent les fleurs blanches, cela suinte et l'idée coule entre les mots comme entre des cuisses sans muscles. Donc là, c'est une parole bavarde. C'est justement l'inverse du style artiste. Ça manque de force, ça manque de consistance. Puisque ça coule, l'idée s'échappe. On ne peut pas la... Ce sont un peu des images de l'informe.
Mais alors, comment se fait-il quand même que avec George Sand les choses se soient passées un petit peu différemment, parce que est-ce qu'il se serait permis de dire à George Sand ce qu'il disait à Louise Collet?
Non, certainement. Alors, il rencontre George Sand plus tard, donc ils sont tous les deux plus âgés. Ils n'ont rien en commun. Tout est différent, leur idée de l'art aussi, leur idée de la politique, leurs idées sociales, tout. Ils n'ont rien en commun et ils ont une immense tendresse l'un pour l'autre. Une immense amitié donc qui passe au-dessus de tout cela. Mais pour George Sand, puisqu'il lui dit à un moment, il fallait la connaître comme je l'ai connue pour savoir tout ce qu'il y avait de féminin dans le cœur de ce grand homme, l'immensité de tendresse qui se trouvait dans ce génie. Voilà. Donc, parce que l'intérêt de Gustave Flaubert, qui est quand même, lui, un génie, c'est de dépasser la question et de déplacer, on peut dire, la question entre mâle et femelle. On a vu que le féminin, ce sont des critères qui s'appliquent aussi aux hommes. Mais Flaubert...
Donc il assume cela, il le revendique.
Oui, en déplaçant justement la question, il dit que l'artiste possède les deux sexes, sur le plan de l'esprit.
Et est-ce que Louise Collet, pour lui, possède suffisamment les deux sexes?
Non, justement. Louise Collet est trop féminine. Alors, l'hermaphrodite, on a dit, c'est l'artiste. Et Louise Collet, elle est beaucoup trop féminine.
Parce que lui souhaiterait finalement qu'elle ait un corps de femme, mais qu'elle soit un homme. C'est à peu près ça, finalement, qu'il lui demande, non?
Oui. Alors, oui, parce qu'il différencie les plans. Donc, sur le plan existentiel, sur le plan du vécu, il la veut femme. Mm-hmm. Hein, donc là, elle la veut femme est totalement, et il l'aime totalement. Hein. D'ailleurs, il lui dit ça depuis de 46 jusqu'à 53. Hein. N'as-tu pas tout ce qu'il faut pour que je t'aime, corps, esprit, tendresse? Toi, je t'aime comme je n'ai jamais aimé et comme je n'aimerai pas. Tu es et tu resteras seul et sans comparaison avec nul autre. Donc, et encore, mais ce que je sais, c'est que je ne souhaite maintenant rien au-delà de ce que tu me donnes. Mm-hmm. Donc, il l'aime totalement.
L'âme doit être complète en soi. Il n'y a pas besoin de gravir les montagnes ou de descendre au fleuve pour chercher de l'eau. Dans un espace grand comme la main, enfoncer la sonde et frapper dessus, il jaillira des fontaines. Le puits artésien est un symbole et les Chinois, qui l'ont connu de tout temps, un grand peuple. Si tu étais dans ces principes-là, chère muse, tu pleurerais moins et tu ne serais pas maintenant à recorriger la servante. Mais non! Tu t'acharnes à la vie. Tu veux faire résonner ce sot tambour qui vous crève sous le poing à tout moment et dont la musique n'est belle qu'en sourdine, quand on lâche les cordes au lieu de les tendre. Tu aimes l'existence, toi. Tu es une païenne et une méridionale. Tu respectes les passions et tu aspires au bonheur. Ah, cela était bon quand on portait la pourpre au dos. Quand on vivait sous un ciel bleu, et quand, dans une atmosphère sereine, les idées, jeunes et closes, chantaient sous des formes neuves, comme sous un feuillage d'avril des moineaux joyeux. Mais moi, je la déteste, la vie. Je suis un catholique, j'ai au cœur quelque chose du suintement vert des cathédrales normandes. Mes tendresses d'esprit sont pour les inactifs, pour les ascètes, pour les rêveurs. Je suis embêté de m'habiller, de me déshabiller, de manger, etc. Si je n'avais peur du haschich, je m'en bourrerais au lieu de pain. Et si j'ai encore 30 ans à vivre, je les passerai ainsi, couché sur le dos, inerte et à l'état de bûche.
Il lui restait en effet un peu moins de 30 ans à vivre. Que retenez-vous, Joël Robert, de cet extrait de lettre à Louise Collet ?
Cet extrait est très pessimiste, hein, quand même.
C'était un homme plutôt pessimiste.
Oui, oui, oui. Mais avec Louise, il a quand même vécu un amour vraiment important.
Mais à distance. Toujours dans la mise à distance.
À distance, et ils se sont retrouvés peu de fois, hein, vraiment, oui, c'est sûr. Il l'a aussi malmené beaucoup sur le plan de... du vocabulaire esthétique. Hein.
Et même du vocabulaire géographique. Quand il lui dit non, il n'y a pas d'écrevisse dans la Seine, on ne peut pas écrire ce genre de choses. Il y a quand même un petit côté maître d'école quand même chez Flaubert,
oui, dans son
rapport à elle.
Surtout, ce que je pense qui a dû être dur pour Louise Collet, c'est la violence de son vocabulaire, la violence du vocabulaire corporel qu'il utilise. Parce que il donne l'impression qu'il voudrait lui mutiler son corps féminin et que ça l'aiderait à ça arrêterait peut-être le débordement de sa sensibilité féminine. Hein. Mm-hmm. Quand il lui dit coupe-moi donc la verrue montagnarde et rentre, resserre, comprime les seins de ton cœur, qu'on y voit des muscles et non une glande. Hein. Voilà, ou quand il lui dit tu es un poète entravé d'une femme, il faut que tu mettes un corset, faut durcir tout dedans. Ou quand il lui dit tu as fait de l'art un déversoir à passion, une espèce de pot de chambre où le trop-plein de je ne sais quoi a coulé.
Oui, ça c'est quand même assez terrible. Il y a aussi quand il la reprend sur la phrase de Louise Collet où s'amassait la sueur. Il dit oui. La sueur elle ne s'amasse pas, elle coule. Et c'est une façon de nier que, après tout, c'est sa liberté aussi de poétesse, si elle a envie de faire en sorte que la sueur s'amasse.
Oui, bien sûr. Oui, c'est sûr. Hein. Voilà. Donc, peut-être que Louise Collet a ressenti la grossièreté de certaines formules. Ouais. Et donc, qu'elle s'est sentie niée un peu en tant que femme. Et que... Parce que c'est ce que Flaubert lui reproche, en fait, hein, d'être une femme, c'est une gêne pour l'écriture, pour lui.
Elle s'est sentie niée peut-être aussi, et d'autant plus que Flaubert lui-même n'est pas un poète.
Oui.
Alors qu'elle est une poétesse, et il se permet, au fond, de faire des commentaires dans un art qu'il maîtrise dans la prose, parce que sa prose est poétique, mais qu'il ne maîtrise pas en tant que tel.
Oui, il dit « je suis né lyrique et je n'ai jamais écrit un vers ». Donc, mais il a une prose rythmée, une prose cadencée, une prose poétique dans toute son écriture. Et c'est vrai, alors il n'a jamais écrit un vers et il se permet de corriger les vers de Louise.
Il y a d'abord ceux qu'on trouve sous la plume des contemporains. Un mari, pourtant ô combien débonnaire, qui en vient à la traiter de poissarde. Il faut dire qu'elle lui a craché à la figure. Un amant, ô combien pondéré et philosophe, puisqu'il s'agit de Victor Cousin,
ni plus ni moins,
qui finit par la quitter en lui conseillant de se chercher, dit-il, un autre protecteur sur lequel son caractère se puisse exercer. Une femme, pourtant généreuse et indulgente aux excès de la passion, George Sand, qui dit de Louise Collet, c'est une folle. Et enfin, les quatre mots de Flaubert lui-même, qui n'était pourtant pas un homme méchant, c'est une créature pernicieuse.
Alors que peut-on reprocher à Louise Collet ?
Eh bien, il faut d'abord distinguer la femme et l'auteur, puisque vous le savez, elle se piquait d'être écrivain et qu'elle l'a été abondamment. 52 titres, je vous passe l'énumération, nous sont restés d'elle, d'ouvrages en vers et en prose, des poèmes, des comédies, des essais, parfois nobles, parfois sentimentaux. Elle a vraiment donné dans tous les genres. Comme femme, elle est exclusive, jalouse, violente. Il n'est pas un de ses amants avec lequel tôt ou tard elle n'en vienne aux mains au sens propre du terme. Et vous en aurez quelques preuves dans un instant. Elle est intéressée, elle est intrigante, elle est d'un égoïsme farouche et d'une vanité insondable.
C'est déjà pas mal.
Que périsse le monde, mais qu'on parle de Louise Collet. Et comme auteur, le reproche est bref, mais il est à mon avis d'importance, c'est un très mauvais auteur.
Alors là, on était en 1967 et on entendait Evelyne Schlumberger faire ce portrait absolument terrible de Louise Collet. On se demande même un petit peu quelle mouche l'a piqué, pourquoi être aussi vindicative ?
Oui. Alors, on a beaucoup critiqué Louise Collet chez les Flaubertistes. Gérard Gailly avait écrit Les véhémences de Louise Collet. C'est extrêmement virulent. C'est dans le même, au Vitriol aussi, énormément. Donc c'est certainement quand même très excessif, je trouve, parce que Louise Collet a des poésies très inégales.
Vous aimez sa prose et sa poésie aussi d'ailleurs.
Oui, tout n'est pas illisible du tout. Il y a de jolis poèmes, mais comme elle n'a pas les moyens de vivre, il faut qu'elle écrive énormément, oui, énormément. Donc elle fait des poésies alimentaires. Elle fait elle ne travaille pas assez ses textes. Donc c'est très inégal.
Elle a fait aussi des opéras, elle a fait tout un tas de choses.
Elle a fait même un opéra avec son mari au début, mais qui n'a pas eu de succès. Elle a écrit des petites pièces de théâtre. C'est une féministe engagée. Elle prône les femmes, elle est contre l'assujettissement de la femme, et elle le dit clairement.
Et alors, elle a aussi écrit apparemment un essai sur Madame de Lambert qui montre à quel point finalement elle est déjà en effet une féministe.
Oui, elle a écrit sur Madame de Lambert, mais elle a écrit aussi sur Charlotte Corday, Madame du Châtelet. Donc, elle écrit beaucoup sur les femmes, et même quand elle écrit folles et saintes, ce sont les catégories que mettent les hommes sur des femmes qu'ils ne comprennent pas totalement.
Elle explique que finalement c'est avec Molière et les femmes savantes a commencé, je ne sais pas comment il faudrait dire, un espèce de dénigrement systématique des femmes.
Oui, c'est possible. Je trouve que ce jugement est trop violent sur Louise Collet. C'est quand même un personnage intéressant. Sa vie est un peu comme un roman. Les nombreux amours qu'elle a eus avec toutes ses amitiés, avec Victor Hugo, avec Louis Blanc, avec Garibaldi.
Parce que Victor Hugo, au contraire, finalement, l'a beaucoup soutenu et disait qu'il appréciait beaucoup son travail.
Oui. Elle a correspondu beaucoup avec Victor Hugo. Elle a même utilisé Flaubert pour cela quand il était en exil, hein, puisque Victor Hugo envoyait ses lettres en Angleterre chez des amis des Flaubert. Et les amis des Flaubert mettaient dans une enveloppe et renvoyaient à Croissy. Donc Flaubert a été la boîte aux lettres de Victor Hugo aussi.
Et oui. Alors une autre citation de cet essai sur les écrits de Madame de Lambert par Louise Collet. N'y a-t-il pas quelque chose de puéril et de malséant dans cette terreur du ridicule qui s'est emparée de l'esprit des femmes dans le siècle même où elles furent le plus remarquables par l'esprit? Et elle dit ça en regrettant cette espèce d'anti-féminisme qui, dit-elle, est apparu, s'est développé au XVIIIe siècle.
Oui,
il y a vraiment quelque chose de l'ordre même de l'analyse historique.
Oui, au XVIIIe, au XIXe siècle, hein, justement, aussi. Hein, donc, elle montre par son indépendance, par l'autonomie, elle proclame ses droits, son appétit de savoir, et elle est révoltée par cette condition.
Est-ce qu'on sait ce qu'elle pensait, elle, des romans de Flaubert?
Alors, pour Madame Bovary, elle a été très blessée parce que il a utilisé un cachet qu'elle lui avait donné, Amor nel cor, l'amour dans le cœur, pour sceller la lettre de rupture de Rodolphe avec Emma.
Est-ce que c'est un modèle d'Emma Bovary, Louise Collet?
Louise Collet. Je ne sais pas si c'est vraiment un modèle, mais il y a des choses de Louise Collet, oui, dans Madame Bovary. Oui, c'est évident. Par exemple, la promenade en fiacre, ça peut rappeler les promenades au bois de Boulogne. Hein,
ils se sont rencontrés, après l'épisode chez le sculpteur. Ils se sont rapprochés dans une balade en fiacre.
Oui. Ils ont fait deux balades en fiacre dont on parlait au début, le soir, avec les feux d'artifice.
Oui, c'est ça.
Voilà. Hein. Oui.
Est-ce qu'on peut employer le mot de misogynie concernant Flaubert?
Oui, certainement, on peut. Mais en même temps, on peut dire qu'il pense avec les catégories de son époque, hein, et qu'on n'échappe pas à l'esprit de son époque, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il transcende quand même, il transcende cette découpe des genres, puisque c'est l'artiste qui est hermaphrodite. Et Flaubert, lui, il se sent homme et femme, les deux. Par exemple, quand il écrit ce qu'il appelle la baisade, dans Madame Bovary, il dit « C'est une délicieuse chose que d'écrire. Aujourd'hui, par exemple, homme et femme, tout ensemble, amant et maîtresse à la fois. Je me suis promenée à cheval dans une forêt, par un après-midi d'automne, sous des feuilles jaunes, et j'étais les chevaux, les feuilles, le vent, les paroles qu'ils se disaient et qui faisaient s'entrefermer leurs paupières noyées d'amour. » Et à Louise Collet, il veut lui dire d'être moins féminine dans sa sensibilité, mais d'utiliser sa féminité comme science. Il lui dit « Tu arriveras à la plénitude de ton talent en dépouillant ton sexe qui doit te servir comme science et non comme expansion. »
C'est toujours une manière de se placer au-dessus que de dire aux femmes ce qu'elles doivent faire de leur féminité.
Mais elle doit l'utiliser comme savoir, comme connaissance et non pas comme effusion lyrique, comme comme sensiblerie.
En tout cas, c'est son avis. Merci beaucoup, Joëlle Robert. Je rappelle que vous êtes présidente des Amis de Flaubert et de Maupassant et que nous vous devons, entre beaucoup d'autres choses, la notice consacrée à Louise Collet dans le dictionnaire Flaubert des éditions Honoré Champion. Tout de suite, une chronique flaubertienne.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Une chronique qui nous est proposée aujourd'hui par Eva Le Sceau, agrégée de lettres modernes et doctorante en littérature française à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Bonjour Eva.
Bonjour Mathieu.
Vous restez dans le sujet en nous parlant donc de Flaubert et de sa vision des femmes.
Oui, comme nous avons pu le voir au cours de l'émission, dans les lettres écrites à Louise Collet, Flaubert parle de beaucoup de choses. Il y expose sa vision du monde, de l'art, mais aussi des femmes, lorsqu'il reproche à Louise d'être précisément trop femme, ce qui signifie pour lui qu'elle est trop dominée par le cœur, contrairement aux hommes qui, selon lui, disposeraient d'une plus grande capacité analytique, ce qui est bien sûr encore à démontrer. Dans une lettre du 24 avril 1852 adressée à Louise Collet, Flaubert donne un développement assez étendu à sa vision des femmes et énonce son principal grief à l'encontre de la gente féminine, je cite « Ce que je leur reproche surtout, c'est leur besoin de poétisation. Voici donc le cœur du problème. Les femmes ne voient pas les choses en vrai, mais poétisent le réel, ce qui, concède-t-il, est une supériorité en amour, même si cela conduit nécessairement à des déceptions. » Cependant, Flaubert ne tient pas les femmes pour entièrement responsables de cette condition, puisqu'il écrit à de nombreuses reprises dans ses lettres que les femmes sont élevées dans le mensonge et ensuite forcées elles-mêmes à mentir. Leur rapport au réel ne peut donc qu'être faussé.
Alors, est-ce qu'on peut retrouver cette vision des femmes dans l'œuvre de Flaubert ?
Alors oui, déjà parce que Flaubert s'inspire du monde qui l'entoure et de son expérience, comme tout écrivain. Louise Collet, dans ses Memento, cite un mot de Maxime Ducamp, qui dit de Flaubert qu'il « tarit ce qui l'approche ». La critique a ainsi bien montré les sources réelles de certains personnages, et Flaubert lui-même ne cache pas l'aspect utilitaire de certaines de ses relations. Ainsi, dans une lettre à Ernest Chevalier qui date de 1842, il évoque deux femmes qu'il a rencontrées et qu'il, je cite, « cultivera », l'une pour son esprit, l'autre comme étude du cœur humain. Mais au-delà de ça, Flaubert, qui aspire à être le plus vrai possible, ne cède pas dans ses œuvres à la tentation de l'idéalisation des personnages féminins. La femme chez lui n'est pas la dame parfaite des romans de chevalerie ou de la poésie amoureuse, non, elle est un être qui donc poétise le réel, et par conséquent s'y heurte, car elle ne le voit pas comme il est.
Et là on pense évidemment tout de suite à Madame Bovary.
Oui, bien sûr, Madame Bovary est l'exemple emblématique de ces femmes qui poétisent le réel à outrance, mais l'on peut aussi penser à l'idéal Madame Arnoux dans l'éducation sentimentale, qui se révèle à mesure que Frédéric s'en rapproche, à ses fleurs bleues, en proie aux superstitions, et qui poétise le réel à un tel point qu'elle avoue à Frédéric, lors de leur dernière entrevue, avoir baptisé le banc sur lequel elle s'assied lors de ses promenades, le banc Frédéric, transformant ainsi le sentiment amoureux en mobilier urbain. Cependant, l'œuvre romanesque vient, il me semble, complexifier le jugement que l'on trouve dans la correspondance. Les personnages masculins de Flaubert ne sont en effet pas en reste en matière de poétisation du réel et partagent souvent le délire poétique des personnages féminins. On peut penser ici notamment à Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale, qui ne cesse d'interposer entre la vie réelle et lui une grille de lecture littéraire qui l'empêche ainsi d'avoir réellement prise sur sa vie. Par conséquent, les sentiments amoureux qui se développent dans les œuvres de Flaubert, lorsqu'ils se concrétisent, se révèlent toujours décevants car ils ne sont pas à la hauteur de leur inspiration poétique. Flaubert, dans son œuvre, tente donc de dessiller ses lectrices et ses lecteurs en montrant le danger d'une poétisation trop grande de la vie au profit d'une perception de la vérité des sentiments qui, comme on l'a vu au cours de l'émission, sont pour lui comme les choses, c'est-à-dire périssables. Hommes et femmes sont ainsi pour l'écrivain victimes des mêmes illusions, élevés dans un mensonge que l'auteur s'emploie à exposer.
Et oui, il faut faire attention à ne pas trop poétiser. Merci beaucoup Eva Le Sceau pour cet éclairage sur les femmes vues par Flaubert. À très bientôt. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Jacques Hubert. Demain, nous continuons avec notre semaine sur les femmes artistes et écrivaines rejetées dans l'ombre par des hommes dont elles étaient pourtant des proches. On s'intéressera au cas de Suzanne Duchamp, la sœur dans l'ombre de Marcel Duchamp. Dans un instant, les sciences sur France Culture.